Sport sans frontières, spécial Cannes, présenté par Mounir Kamouri sur Radio Orient.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Orient, bienvenue dans Sport sans frontières, votre rendez-vous quotidien tout au long de cette Cannes 2025. Ce soir, on va revenir sur toutes les rencontres du week-end, un week-end très riche, marqué par des exploits, un choc spectaculaire et des surprises qui rebattent totalement les cartes dans plusieurs groupes. On y revient dans un instant. Au sommaire ce soir, les chocs du week-end avec la Côte d'Ivoire face au Cameroun et le Nigeria qui affrontait la Tunisie. On écoutera d'ailleurs un joueur tunisien au micro de notre envoyé spécial au Maroc, Abdeslam Difala. On reviendra sur l'exploit du Mozambique, vainqueur pour la première fois de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Le programme du jour avec notamment le match très attendu entre le Maroc et la Zambie. Et la chronique de Salma Daklaoui sera consacrée aux tensions internes du Cameroun. Puis comme chaque soir, le chiffre du jour. On commence par le gros match du week-end, le Nigeria longtemps dominateur s'est imposé 3-2 devant la Tunisie et valide donc son ticket pour les huitièmes de finale. Les Super Eagles sont frappés dès l'entame du match, Victor Osimhen se crée deux énormes occasions en 10 minutes avant de marquer juste avant la pause, cette fois sur un centre parfait d'Ademola Lookman. Au retour des vestiaires, les Nigérians accélèrent encore, Lookman dépose un corner sur la tête de Ndidi, puis s'offre lui-même un but après une combinaison parfaite dans la surface. La Tunisie, longtemps étouffée, s'accroche grâce à Montassar Talbi, puis Abdi sur pénalty, mais les Aigles de Carthage ont réagi trop tard. On va écouter Yann Valéry, le défenseur tunisien, au micro de notre envoyé spécial au Maroc, Abdeslam Difala.
On n'était pas assez agressif sur ton premier temps, sur les deuxièmes ballons, les premiers ballons. Comme j'ai dit, on va regarder le match, apprendre de nos erreurs et réagir vite, Inch'Allah. On va aller des schémas tactiques parce que contre les grosses équipes, on a aussi joué à 5, que ce soit contre le Brésil, contre le Maroc, contre l'Algérie, on avait fait des très bons matchs à 5. Il faut juste que, comme j'ai dit, dans l'intensité, dans l'agressivité, dans les duels, on doit être meilleur et moins respecter l'adversaire aussi parce qu'on a une très bonne équipe et on l'a montré en deuxième mi-temps et maintenant il faut qu'on le fasse sur 90 minutes, Inch'Allah.
On va écouter l'analyse à présent de Bilal Mejri, consultant sportif.
Bonjour Mounir, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Au fil de cette compétition de la Cannes, vraiment, on commence à mieux cerner les niveaux des équipes, mais aussi de celui du corps arbitral qui fait de plus en plus débat. On a eu le sentiment que cette compétition, elle commençait bien avec les arbitres, mais au fil, chaque fois on avance dans cette compétition, on voit que les arbitres, ils ont du mal à gérer les gros matchs. Mounir, l'arbitre qui a aussi marqué ce match, l'arbitre malien Boubou Touré, il a 31 ans et il a commis plusieurs erreurs, notamment sur une action litigieuse impliquant Hannibal et Ben Romdan, les deux Tunisiens, ils se sont fait agresser par deux joueurs nigériens. Sur cette agression, l'arbitre a très mal jugé l'action. Il n'a pas laissé l'avantage, on aurait pu voir un but qui peut changer le match. Il n'a pas mis carton rouge sur le tacle par derrière sur Hannibal. Et du coup, en fait, on peut dire que ce match-là, on peut le résumer sur la frustration des Tunisiens et le rythme de l'arbitre ou la prestation de l'arbitre qui était très moyenne.
Victoire logique et méritée donc du Nigeria. Quant à la Tunisie, il faudra réagir dès demain face à la Tanzanie avec au moins un match nul pour se qualifier. Moment historique ce week-end, le Mozambique remporte sa toute première victoire en Coupe d'Afrique des Nations, 3-2 face au Gabon. Djeni Katamo, le joueur du Sporting Portugal, a signé un match monumental. Un but, une passe décisive et un pénalty provoqué. Le Mozambique a surpris un Gabon pourtant favori avec un début de match courageux, beaucoup d'intensité et un réalisme glacial dans les temps forts. Aubameyang a bien tenté de relancer les siens, mais les Panthers se sont réveillés beaucoup trop tard. Les Mamba, eux, peuvent rêver des huitièmes de finale, un scénario totalement inattendu dans ce groupe F. C'est officiel, l'Algérie est qualifiée pour les huitièmes de finale, une première apparition phase finale depuis 2019 et encore une fois, Riyad Mahrez. 3 en 2 matchs, meilleur buteur de la CAN jusqu'ici. Les Fennec sont en tête du groupe E avec 6 points. On va écouter vos réactions, chers auditeurs et auditrices, que vous nous avez partagées sur la qualification de l'Algérie.
Heureux de cette qualification, même si on n'était pas dans le groupe de la mort. Il ne faut pas oublier que l'Algérie revient de très loin. Des matchs avant la CAN qui n'étaient pas très bons. Le contenu n'est pas très bon aussi durant cette CAN, mais on va se contenter de ça. On va se contenter de ça, d'autant plus que depuis 2019 et le sacre de l'Algérie à la CAN, on n'avait plus gagné un match en Coupe d'Afrique. Donc voilà, retrouver les huitièmes, après 6 ans. Ça fait plaisir. Maintenant, je suis content pour Mahrez aussi. Très critiqué avant la CAN, parce que dans le foot, on est beaucoup ingrat. On oublie les joueurs, ce qu'ils ont fait pour l'équipe, pour le pays. Donc content, 2 matchs, meilleur buteur avec 3 buts. Donc maintenant, sûr d'être premier, on va mettre tous les titulaires au frais pour le troisième match. Et en huitième, ça va être compliqué. Hein. D'après les calculs, ça va être soit le Sénégal, soit le Congo. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. On va compter sur notre défense, qui était normalement notre point faible. Là, c'est notre point fort après le match d'hier et surtout Ben Sebaini. Il y a Maza qui est en train d'exploser aux yeux du monde. À Moura, on a des beaux joueurs techniques. Maintenant, le plus dur commence. Il va avoir que des belles équipes à partir des huitièmes. Et on va voir comment ça va se passer.
Le Soudan, de son côté, signe un succès précieux face à la Guinée équatoriale, 1 à 0. Et les Guinéens restent derniers de ce groupe avec 2 défaites et beaucoup de regrets. On termine ce récap du week-end avec l'un des chocs les plus attendus, la Côte d'Ivoire face au Cameroun. Un duel qui a tenu toutes ses promesses, un match fou, rythmé, tendu. Les éléphants vont d'abord frapper les premiers grâce à Amad Diallo, auteur d'un véritable golasso. Une longue transversale de Konan, un contrôle parfait, nous éliminé et une frappe limpide qui finit au fond des filets. La Côte d'Ivoire pense avoir pris une option, mais la réaction camerounaise est immédiate. À peine 5 minutes plus tard, Junior Tiamadeou égalise sur une frappe délivrée par Konan, un ballon qui lobe le gardien. Au final, un match nul logique, mais qui entretient le suspense. Les deux nations comptent 4 points et joueront leur qualification lors de la dernière journée. Et justement, ce match nul côté camerounais, s'il montre une équipe capable de réaction et d'envie, ne masque pas les tensions profondes qui agitent les Lions indomptables depuis le début de la compétition. Salma Daklaoui a enquêté et revient dans sa chronique sur tout ce qui se passe dans les coulisses du Cameroun dans cette CAN 2025.
Et oui Mounir, la crise profonde qui secoue la sélection du Cameroun, c'est une crise qui a commencé loin des pelouses, mais qui aujourd'hui impacte directement les résultats, la cohésion et même l'image des Lions indomptables. Le premier élément de cette crise, c'est la rupture entre la FECA Foot de Samuel Eto'o, le monument du football africain, une légende, et le ministère des Sports. Quand le gouvernement a décidé de nommer un sélectionneur, Marc Brice, contre l'avis d'Eto'o, tout a basculé. On a vu des scènes inédites, des altercations filmées, des réunions qui tournent au chaos, des communiqués contradictoires publiés à quelques heures d'intervalle. Résultat, l'équipe se retrouve prise entre deux autorités qui ne travaillent plus ensemble et Eto'o aurait choisi de prendre ses distances avec la sélection, ce qui est un symbole très fort. Quelques semaines avant la CAN, la FECA Foot décide finalement de limoger Marc Brice est de nommer David Pagou. Sportivement, ce choix pose 3 problèmes majeurs. David Pagou arrive trop tard pour imposer un projet. Il doit travailler dans un climat où personne ne sait clairement qui décide quoi. Et il hérite d'investir fracturé avec des joueurs désorientés. D'ailleurs, selon plusieurs médias africains, certains joueurs auraient même découvert ce changement sur les réseaux sociaux. La convocation pour la CAN est elle aussi au cœur du scandale. Pas d'André Onana, pas de Vincent Aboubakar, pas de Franck Zambo Anguissa. Pour beaucoup de Camerounais, cela confirme une chose, la sélection n'est plus uniquement sportive, mais fortement politique. Cette absence des cadres crée un manque d'expérience, mais aussi un manque de leadership dans un groupe qui en avait déjà besoin. Sur le terrain, le nul face à la Côte d'Ivoire le montre. Le Cameroun a du cœur, du physique, du caractère, mais il manque de repères, d'automatisme et surtout de stabilité. Le jeu est basé sur la réaction, jamais sur la maîtrise, et certains joueurs semblent livrés à eux-mêmes. On voit une équipe qui se bat, mais qui évolue sous tension, à cause d'une situation dont les joueurs ne sont pas responsables. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est le résultat de conflits institutionnels, de décisions prises dans l'urgence, de rivalités internes et d'une gouvernance contestée. Le Cameroun reste bien entendu un géant du football africain, mais tant que ces problèmes ne seront pas réglés, les Lions indomptables avanceront avec un frein à main.
Le programme du jour maintenant avec l'Angola contre l'Égypte déjà qualifiée. Le Zimbabwe affronte l'Afrique du Sud, puis les Comores feront face au Mali avant le dernier match de la journée entre la Zambie et le pays hôte. Le Maroc qui pourra désormais compter sur Achraf Hakimi de retour dans le 11 de départ. On écoute Walid Regragui au micro de notre envoyé spécial Abdeslam Difala en conférence de presse d'avant-match.
Ce qui est certain, c'est qu'Achraf jouera demain. Est-ce qu'il débutera ou pas, mais en tout cas, ce sera son premier match pour la CAN. Mais ce qu'on veut et ce qu'on avait prévu, parce qu'on a quand même l'envie d'aller le plus loin possible, c'est qu'on ait un Achraf qui progresse avec l'équipe et qu'on garde pour toute la compétition. Donc aujourd'hui, le plan est en train d'être réussi. On est très content. Et bien sûr, Achraf, je n'ai pas envie de citer d'autres équipes, mais si vous retirez au Sénégal un Mané ou à l'Égypte un Salah ou notre équipe, on dirait « ouais, mais il leur manque leur meilleur joueur ». Aujourd'hui, nous, au Maroc, on ne parle pas de ça. On minimise peut-être le rôle d'Achraf. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas conscients, mais moi, en tout cas, je sens qu'avec Achraf, on va être encore une équipe encore plus solide et plus forte. Ça, c'est certain.
Et on termine cette émission avec le chiffre du jour. Et ce nombre, c'est le 17, comme le nombre de matchs qu'il aura fallu au Mozambique pour remporter le premier succès de son histoire en Coupe d'Afrique. 14 défaites, 2 matchs nuls et cette victoire hier donc pour leur 17e rencontre depuis 1986. Un moment historique pour un pays qui n'avait jamais dépassé la phase de groupe. Voilà, c'était Sport sans frontières spécial CAN. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour ce grand récap du week-end. On se retrouve demain à 18h20 pour une nouvelle émission spéciale CAN sur Radio Orient.
C'était Sport sans frontières spécial CAN présenté par Mounir Kamouri sur Radio Orient.